de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. 16 morts dans une attaque au missile russe contre un centre commercial ukrainien. Macron, furieux. Le président demande le soutien des pays du G7 pour faciliter les exportations ukrainiennes de blé. Le président Joko Widodo invite les pays du G7 à investir dans l'énergie propre en Indonésie. Les entrepreneurs féminins de MPME en Indonésie ont le potentiel de créer de nouveaux entrepreneurs établis. Les résultats du G20 sont orientés vers des projets réalisables pour soutenir la reprise économique. Le TNI et l'US Institute for Security Governance discutent d'exercices conjoints. Et promotion de la cuisine indonésienne au bazar de l'ASEAN à Buenos Aires. Pour changer tard, voici la nouvelle incomplète. Le président français Emmanuel Macron condamne l'attaque meurtrière de la Russie contre un centre commercial à Kremenchuk en Ukraine. Macron, sur ses réseaux sociaux, comme l'a rapporté l'agence de presse AFP mardi 28 juin 2022, a souligné que le bombardement russe d'un centre commercial à Kremenchuk était une abomination. Il partage la douleur de la famille de la victime et sa colère face à de telles atrocités. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que plus de 1000 personnes se trouvaient dans le centre commercial au moment de l'incident. Selon des témoins, la frappe du missile a provoqué un énorme incendie et envoyé de la fumée noire dans le ciel. Le président Joko Widodo a demandé le soutien des pays du G7 pour faciliter immédiatement les exportations de blé d'Ukraine afin que la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en raison de l'impact de la guerre, revienne à la normale. C'est ce qu'a dit le président Joko Widodo lors de la deuxième session du sommet du G7 à Elmau en Allemagne, lundi 27 juin, heure locale, où le président Joko Widodo s'est concentré sur les questions alimentaires dans sa déclaration. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans un communiqué de presse virtuel via son compte YouTube et témoin de Jakarta mardi. Elle a déclaré que le président Joko Widodo avait souligné l'importance du soutien des pays du G20 pour réintégrer les exportations de blé de l'Ukraine, ainsi que les exportations de produits alimentaires et d'engrais de la Russie dans le monde des chaînes d'approvisionnement. Par conséquent, le président estime qu'il y a deux façons d'y parvenir, à savoir d'abord faciliter l'exportation de blé ukrainien. Les deux présidents ont également compris l'importance de faire savoir au monde que les denrées alimentaires et les engrais en provenance de Russie n'étaient pas soumis à des sanctions. Le président a estimé que cette communication intensive était nécessaire pour qu'il n'y ait pas de doute prolongé de la part du public international. Le président Jokowi invite les pays membres du G7 à investir dans le secteur de l'énergie propre en Indonésie. À l'occasion de prendre la parole lors de la première session du sommet du G7 à Helmand en Allemagne, lundi 27 juin heure locale, le président a déclaré que l'Indonésie et de nombreux autres pays en développement sont confrontés à des risques réels en raison du changement climatique. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans un communiqué de presse diffusé sur la chaîne YouTube officielle du secrétariat présidentiel, mardi 28 juin, a déclaré que l'engagement et les efforts de l'Indonésie en matière de changement climatique et de transition énergétique sont très clairs. Le président Joko Widodo, selon la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie avait le potentiel de devenir un très grand contributeur à l'énergie propre, que ce soit dans les entrailles de la terre, sur terre ou au niveau de la mer. Cependant, pour réaliser ce potentiel, l'Indonésie a besoin d'importants investissements accompagnés d'un transfert de technologie. Retno Marsudi a ajouté que le président a également déclaré que l'Indonésie avait besoin d'investissements importants et de technologies à faible émission de carbone pour soutenir la transition vers une énergie propre, rapide et efficace. Le ministre indonésien des coopératives et des PME, Teten Mas Duki, a apprécié le nombre de MPME gérées par des femmes qui peuvent encore envoyer leurs enfants à l'école et ont le potentiel de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs établis. Certaines de ces entrepreneurs féminins de MPME relèvent davantage de l'économie de survie pour répondre aux besoins des ménages. C'est ce qu'a déclaré Teten Mas Duki dans la publication du webinaire Prod-UKM organisé par Katadata à Jakarta mardi. Teten Mas Duki a rappelé que jusqu'à 64% des entrepreneurs de petites, micro et moyennes entreprises sont des femmes et que la plupart d'entre elles sont engagées dans le domaine culinaire. Il a également déclaré que les MPME gérées par des femmes était l'une des cibles du gouvernement afin de donner naissance à 1 million de nouveaux entrepreneurs établis. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, Erlangga Hartanto, a déclaré que la présidence indonésienne du G20 était chargée de produire des projets économiques réalisables afin de soutenir la reprise économique mondiale. Erlangga Hartanto, dans un communiqué officiel à Jakarta mardi, a déclaré que le président Joko Widodo avait transmis des instructions à la présidence du G20 pour produire des projets et une coopération économique qui ont été mis en œuvre afin qu'il puisse soutenir la reprise économique mondiale. Erlangga a expliqué que la présidence indonésienne du G20 se concentre sur 3 priorités principales, à savoir la réorganisation d'une architecture sanitaire mondiale plus inclusive en garantissant une disponibilité plus équitable des vaccins et un système de santé résilient et inclusif. Ensuite, pour encourager la transformation économique basée sur le numérique, pour encourager les PME et créer des nouvelles sources de croissance économique. En plus d'accélérer la transition vers une énergie plus respectueuse de l'environnement qui soit pas seulement équitable entre les intérêts des pays en développement et développés, mais qui doit également être abordable tant en termes de technologie que de financement. Le commandant des Forces armées nationales indonésiennes TNI, le général Andika Perkasa, ainsi que des représentants de l'Institut pour la gouvernance de la sécurité des États-Unis ont discuté des plans d'un exercice conjoint visant à améliorer la capacité des soldats à s'acquitter de leurs fonctions. Le commandant des Forces armées nationales indonésiennes, le général Andika Perkasa, via une chaîne YouTube surveillée Jakarta, a déclaré mardi que son parti tentait de concevoir un exercice conjoint entre les trois dimensions du TNI en collaboration avec l'US Institute for Security Governance. L'Institut américain pour la gouvernance de la sécurité est une institution indépendante qui travaille et a de l'expérience avec le commandement Indo-Pacifique, Indo-PACOM, dans la conception de divers programmes de développement des soldats. Selon Andika Perkasa, cet exercice vise à donner aux soldats plus d'expérience dans la conduite d'opérations militaires. Andika Perkasa a ajouté que la coopération entre le TNI et l'Institut américain pour la gouvernance de la sécurité se fera en continu dans divers programmes de développement des ressources humaines au sein du TNI. L'ambassade d'Indonésie à Buenos Aires fait la promotion de la cuisine indonésienne auprès de la communauté argentine à travers l'activité « L'Indonésie pimente le monde » au bazar de l'ASEAN sur la Plaza Barrancas de Belgrano. La déclaration de l'ambassade d'Indonésie à Buenos Aires, citée par Antara Jakarta mardi, indique que des milliers de personnes qui se sont rassemblées sur la Plaza Barrancas de Belgrano à Buenos Aires ont eu l'occasion de goûter aux spécialités indonésiennes et d'assister à des spectacles d'un clown. L'ambassadrice d'Indonésie en Argentine, Nini Canariati, a déclaré que la promotion culinaire en Argentine visait à accroître la demande de produits alimentaires indonésiens et à faire connaître la cuisine indonésienne aux résidents locaux. À l'avenir, on espère qu'il y aura plus d'exportations d'aliments transformés d'Indonésie, en particulier d'épices. Bon, chers auditeurs, c'est toutes les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Coin diplomatique intitulée « Apindo et l'ambassade d'Indonésie à Tokyo promeuvent les PME de composants automobiles au Japon ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, l'association des employeurs indonésiens Apindo et l'ambassade d'Indonésie à Tokyo font la promotion de l'industrie indonésienne des composants automobiles de petite et moyenne taille, IKM, au Japon. Le ministre indonésien de l'industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, dans un communiqué de presse reçu à Jakarta mardi 28 juin, a déclaré « Les petites et moyennes industries doivent être promues et devenir une priorité stratégique dans la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale. » Pour cette raison, son parti apprécie grandement les efforts proactifs de l'ambassadeur Eri Ahmadi pour organiser le forum des entreprises. Cela a été transmis dans un discours clé au Forum d'affaires Indonésie-Japon Autopar, qui s'est tenu à l'initiative de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo lundi 27 juin. Le Japon est connu pour être devenu le principal partenaire de l'Indonésie dans l'industrie automobile qui a contribué à l'absorption de plus de 1,5 million de travailleurs le long de la chaîne de valeur de l'approvisionnement industriel. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Japon, Eri Ahmadi, a déclaré avec l'annonce de l'objectif de substitution des importations de 35% par le gouvernement indonésien. Les PME indonésiennes de composants automobiles ont certainement une excellente occasion de répondre aux besoins du niveau des composants nationaux TKDN de divers constructeurs automobiles japonais en Indonésie. Un total de 30 PME indonésiennes de composants automobiles ont la possibilité de promouvoir au Japon. La plupart de ces PME ont également collaboré avec le Japon pendant une longue période sous les auspices de l'Automotive Component Small Association des industries moyennes. Pendant ce temps, le président général d'Apindo, Haryadi B. Sukamdhani, a déclaré que son parti soutient le développement des petites et moyennes industries, en particulier le secteur des composants automobiles, pour faire progresser la classe, en facilitant la coopération internationale par le biais d'activités de commerce et d'investissements internationaux. Conformément à sa mission, Apindo encourage les entreprises IKM. Il s'agit de participer à un forum d'affaires qui réunit des PME ou IKM indonésiennes de composants automobiles et des acteurs ou fournisseurs d'affaires japonais. Outre le ministre indonésien de l'Industrie, le sous-gouverneur de Banque Indonesia, Dodi Budiwaluyo, était également présent au salon Autopar, forum d'affaires à Nagoya. Ils ont expliqué l'évolution économique de l'Indonésie pour convaincre les entreprises japonaises de la stabilité macroéconomique et des opportunités d'investissement conçues par le gouvernement indonésien. Bon, cher Joïtar, c'est tout le coin diplomatique.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 29 juin. Le jour national des familles est commémoré pour la première fois le 29 juin 1994. La commémoration de la journée nationale de la famille fait référence à la situation nationale qui n'est pas encore propice après l'annonce de la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie en 1945. Ces conditions ont forcé le peuple indonésien à s'engager dans le service militaire pour maintenir son indépendance. Beaucoup de gens ont été séparés de leur famille parce qu'ils ont été appelés sur le champ de bataille à ce moment-là. Le 22 juin 1949, les Pays-Bas ont remis la souveraineté de la nation indonésienne dans son ensemble. La guerre a pris fin et les guerrières ont commencé à retourner dans leur famille. L'incident du retour de combattants pour retrouver leur famille a été enregistré une semaine après l'octroi de la souveraineté indonésienne le 29 juin 1949. La date a ensuite été proposée pour être la journée nationale de la famille en 1993. Passons maintenant à l'événement du 29 juin 1976, la République des Seychelles est indépendante. La République des Seychelles est un archipel de 115 îles dans l'océan Indien. C'est parce que ce pays est devenu une colonie française au XVIIIe siècle. Le nom de l'archipel des Seychelles est tiré du nom du ministre français des Finances à cette époque, Jean Moreau de Seychelles. Les îles Seychelles sont devenus plus tard une colonie britannique et ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne le 29 juin 1976. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 29 juin 2005, Ruslan Abdulghani est décédé. Ruslan Abdulghani est un homme d'État et homme politique indonésien. Il a été ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie de 1956 à 1957. Il a également été ministre de l'Information dans le gouvernement du président Sukarno. Pendant l'administration du président Sukarno, Ruslan Abdulghani a été ambassadeur de l'Indonésie auprès des Nations Unies de 1967 à 1971 et a été le chef de l'équipe consultative présidentielle sur le Pancasila pendant 20 ans depuis 1978. Ruslan Abdulghani est décédé à Jakarta le 29 juin 2005 à l'âge de 90 ans. Ses auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international Voice of Indonesia VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étriens de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de la Voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia. Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie invite l'ASEAN à atténuer les obstacles d'exportation vers les États-Unis. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministre des Affaires maritimes et de la pêche, KKP, invite les pays de l'ASEAN à vaincre les obstacles potentiels à l'exportation vers les États-Unis après la mise en œuvre américaine sur la protection des mammifères marins, USMMPA, lors de la 30e réunion du groupe de travail sectoriel de l'ASEAN sur la pêche, ASWZFI, récemment. La SWZFI est le seul forum officiel de l'ASEAN qui traite des questions du secteur de la pêche, telles que la capacité de pêche, les zones de pêche, l'éradication de la pêche INN, la traçabilité, la conservation et l'habitat et l'impact du changement climatique. Le secrétaire général du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Antam November, dans un communiqué de presse à Jakarta dimanche, 26 juin a déclaré que l'un des efforts encouragés était de se concentrer sur la fixation de la pêche artisanale dans la région de l'ASEAN. Antam November a expliqué que le problème des pêcheurs et des petits cultivateurs qui dominent en nombre le potentiel d'affecter les performances d'exportation des pays membres de l'ASEAN vers le marché mondial, en particulier les États-Unis, car il est lié à la standardisation des produits qui sont produits. Pour cette raison, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a également demandé au gouvernement des États-Unis d'augmenter son soutien tant capacitaire que technique afin que les pays de l'ASEAN puissent respecter ces normes. Antam November estime qu'il s'agit d'une préoccupation commune car elle a le potentiel de devenir une nouvelle barrière non tarifaire et affectera l'exportation de poissons et de produits de la pêche des pays membres de l'ASEAN vers le marché américain. Il a également expliqué qu'en améliorant les compétences des pêcheurs et des petits cultivateurs, l'Indonésie a lancé des concepts dans le domaine de la pêche de capture et de l'aquaculture. Dans les pêches de capture, le contenu porte la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté grâce à l'application de la directive de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Pendant ce temps, en aquaculture, il s'agit d'une compréhension mutuelle de l'aquaculture durable en encourageant la gestion d'une pisciculture durable. Selon Antam November, les deux propositions d'initiative ont été approuvées pour l'élaboration de documents supplémentaires avec les pays et partenaires de l'ASEAN tels que la FAO et le Centre de développement des pêches d'Asie du Sud-Est, CFDEC. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Ingin ku berlama-lama menunggu terus.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, dans le magazine culturel aujourd'hui, je recommande une nouvelle destination touristique et la première zone de forêt mangrove de la ville de Sorong, à savoir le parc touristique de la forêt de mangrove de Klawalu. Les zones touristiques de mangrove ont été construites par le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative avec un fonds d'allocation spécial pour l'année fiscale 2018-2022. Le parc touristique de la forêt de mangrove de Klawalu est accessible en environ 30 minutes en avion depuis l'aéroport Domine Edward Osok. Les touristes qui veulent entrer dans cette zone n'ont qu'à payer des frais de rétribution d'une valeur de 5 000 rupiahs pour les enfants et de 10 000 rupiahs pour les adultes, alors que les frais de stationnement pour les véhicules à deux roues sont de 2 000 rupiahs et 5 000 rupiahs pour les véhicules à quatre roues. La vue autour de cette forêt de mangrove est très instagrammable car les spots photos sont en effet fournis par les gérants. Chers auditeurs, si vous pensez que visiter la forêt de mangrove sera ennuyeux, ce n'est pas ici, parce que vous pouvez faire diverses activités dans la forêt de mangrove de Klawalu. Pour profiter de la vue sur toute la forêt de mangrove de cette zone, vous pouvez monter jusqu'à la tour d'observation. De cette tour, vous pouvez voir et profiter de la belle vue sur toute la forêt de mangrove. La chasse aux différents spots instagrammables qui vous ont été fournis est également obligatoire pour vous en traversant des ponts colorés. Si vous voulez éprouver la sensation de passer la nuit dans la forêt de mangrove, vous n'avez pas à vous inquiéter car il y a 8 unités d'hébergement chez l'habitant fournies ici. Le forfait d'hébergement offert comprend un menu brûlant pour le soir et un vélo le matin. Ce parc touristique est parfait pour faire de l'exercice. En plus du vélo, avec les installations de pistes de jogging existantes, vous pouvez respirer l'air frais tout en vous promenant dans cette zone. En tant que destination touristique axée sur la nature et éducative, le gestionnaire du parc touristique de la forêt de mangrove de Klawalu éduque les touristes sur l'importance des fonctions et des avantages des forêts de mangrove dans l'écosystème. Alors, où pouvez-vous vivre une expérience de voyage informative comme celle-ci? Il est garanti que vous comprendrez mieux que les mangroves peuvent empêcher l'intrusion ou rétrécissement de l'eau de mer, prévenir l'érosion et l'abrasion qui se produisent dans les zones côtières comme un moyen de dissuasion et de filtre naturel, ainsi qu'un habitat et une source de nourriture pour divers types d'animaux. De plus, les forêts de mangrove jouent également un rôle majeur dans la formation des îles et stabilisent les zones côtières. En plus de choyer les touristes avec des vues panoramiques, cette région offre également une variété de produits de l'économie créative fabriqués par les femmes Sorong qui conviennent comme souvenirs. Certains des produits prêts à être achetés sont les chips de sagou, le sel de palme, le noken, le thé aux fleurs de Thaïlande et divers objets artisanaux tels que des vases à fleurs, des porte-mouchoirs et diverses décorations murales fabriquées à partir de l'écorce de la nervure médiane de la feuille de sagou. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez, planifiez vos vacances dès maintenant. Bon, chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
bahagia bersamamu. Ku jalani hariku, taraku dibuatmu. Ada selalu ucap kata darimu melayang di pikirku, tertanam di hatiku, buatku cinta padamu. Ku ingin selalu dekat denganmu. Kau membuatku selalu tersenyum. Ku ingin selalu tahu kabarmu. Aku hanya bisa mencintaimu. Bahagia bersama.
C'était la belle chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Bagaimana cara ke apotek? Bagaimana cara ke apotek? En français, comment se rendre à la pharmacie? Bonne écoute. Chers auditeurs, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Bagaimana cara ke apotek? Bagaimana cara ke apotek? Comment se rendre à la pharmacie? Cette conversation se déroule entre Dev Singh, un touriste indien, et le réceptionniste. Dev demande au réceptionniste comment se rendre à la pharmacie. Bonne écoute.
Bagaimana menuju ke apotek? Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel.
Oke, Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Bagaimana cara ke apotek? Bagaimana cara ke apotek? Comment se rendre à la pharmacie? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Bagaimana? Bagaimana? Comment? Menuju. Menuju, se rendre. Ke apotek. Ke apotek, à la pharmacie. Bagaimana menuju ke apotek? Bagaimana menuju ke apotek? Comment se rendre à la pharmacie? Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu la phrase Bagaimana menuju ke apotek? Bagaimana cara menuju ke apotek? Comment se rendre à la pharmacie? Dans la phrase, il y a un interrogatif. Bagaimana? Bagaimana? Comment? Ce mot interrogatif, bagaimana, bagaimana, comment, est utilisé pour demander comment faire quelque chose. Et dans cette phrase, le mot interrogatif, bagaimana, bagaimana, comment, est utilisé pour demander comment se rendre à la pharmacie. Pour demander comment se rendre à un lieu, le mot interrogatif, bagaimana, bagaimana, comment, peut être suivi des mots exprimant l'activité. Par exemple, aller à, pergi ke, et dans lieu ou lieu. Par exemple, apothèque, pharmacie. Pour demander comment aller quelque part, vous pouvez aussi ajouter l'expression pergi ke, aller à, ou cara ke, se rendre à. Après le mot interrogatif, bagaimana, bagaimana, comment. Maintenant, écoutons la phrase pour demander cara menuju ke suatu tempat. Cara menuju ke suatu tempat. Comment pour aller quelque part? Bagaimana? Bagaimana? Comment? Bagaimana pergi ke restoran? Bagaimana pergi ke restoran? Comment pour aller au restaurant? Bagaimana cara ke restoran? Bagaimana cara ke restoran? Comment se rendre au restaurant? Chers auditeurs, en Indonésie, vous pouvez pas seulement acheter des médicaments dans les pharmacies, mais aussi dans les supermarchés ou les magasins qui vendent des médicaments en vente libre. Chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Bagaimana menuju ke apotek? Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel.
Bon, cher Jaitar, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Padamkan, ku tak terlelap, ku terjaga, kau yang ku pikirkan. Terlintas satu pertanyaan, 24 jam sejak pagi hingga malam. Rasa penasaran, dan ku ingin kau menjawab semua misteri hati dan berikan ku sebuah tanda.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Sumatra du Sud, intitulée Palembang Darussalam. Chers auditeurs, la chanson Palembang Darussalam raconte un sentiment de fierté dans la ville de Palembang. Les paroles disent que Palembang est célèbre pour la rivière Musi, le pont Ampera et Masjid Agung ou la grande mosquée et sa cuisine pempek. Palembang est également connu pour ses maisons limaces et son quête. De plus, les coutumes culturelles de Palembang sont maintenues. Les produits sont abondants et le développement est uniformément réparti dans toute la ville. Bon, chers auditeurs, voici Victor Utabarat va chanter une chanson intitulée Palembang Darussalam. Bonne écoute.
Dengan pempeknya Jembatan Ampera yang anggun Masjid Agungnya yang cindo Menambah terkenalnya Kota kesayangan kita Palembang Darussalam Palembang kota kita Terkenal rumah limasnya Terkenal dengan songketnya Pulau kemarau yang tenang Benteng kuto besar yang cindo Menambah semaraknya Kota kebanggaan kita Gadisnya oi belaga nian Adat budayanya tetap dijago Hasil buminya oi banyak nian Pembangunannya rata di mano-mano Oi Palembang Darussalam Oi Palembang Darussalam Palembang kota kita Dengan songketnya Pulau kemarau yang tenang Benteng kuto besar yang cindo Menambah semaraknya Kota kebanggaan
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international Voice of Indonesia VOI 2022 Huit gagnants recevront des prix étriens de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de la Voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia. Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.